radio. Vous la radio, vous me recevez? Je vais vous donner quelques indications avant de commencer cette promenade. Lorsque vous lancerez l'écoute, ne l'arrêtez pas jusqu'à la fin. Écoutez bien les indications données pour suivre le bon parcours. Faites seulement les arrêts qui sont signalés expressément. Montez le son si vous l'entendez pas bien. Et surtout, marchez à pas lents et à un rythme constant. Très bien, allons-y. Pour commencer la promenade, vous devez avancer tout droit et laisser l'office de tourisme derrière vous. Faites attention pour traverser la chaussée du quai qui se trouve en face, jusqu'à la rambarde en métal qui se trouve de l'autre côté. Allez, une fois arrivé à la rambarde, faites une halte. Terminé.
Mon père me racontait que, avant l'existence des radars et du GPS, les bateaux n'avaient qu'une radio-écoute et les marins utilisaient les fréquences des émissions de radio commerciales pour suivre le cap lorsqu'ils ne voyaient pas la côte. S'ils voulaient aller vers l'ouest, ils syntonisaient Radio Coruña. S'ils voulaient aller vers le sud, ils cherchaient Radio Lugo. La technologie change la façon de s'orienter et de voir le monde et modifie également le paysage dans lequel nous vivons. Burela en est un bel exemple. Au début du 20e siècle, les gens de la mer se guidaient grâce aux étoiles et au pôle sud, et donc tout ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux était à l'époque très différent. Là-bas, en face, légèrement à droite de cette rampe, se trouvait le quartier du port, l'un des quatre quartiers qu'il y avait à Burela, avec Villa do Medio, Villar et Burela de Cabo. Regardez avec attention. Vous remarquerez un caboso ou orreo entre les maisons, c'est-à-dire un grenier traditionnel en pierre où l'on faisait sécher les récoltes. Un peu plus à gauche se dressent des falaises. C'est là que se trouve l'un des trois castros de Burela, le Castro do Cordon. Il s'agit d'un village fortifié maritime asturgalaïque, typique, stratégiquement situé sur une petite péninsule baignée par la mer. Derrière ce grand bâtiment industriel des chantiers navals se trouve ni les quais, ni la vaste plaine de port gagnée à la mer qui se trouve derrière vous, ni la digue de protection. C'est l'un des mystères de Burela. Comment ce village sans port naturel, où la pêche n'était qu'une activité complémentaire à la culture des champs, est-il devenu l'un des principaux ports de Galice et de la mer Cantabrique? Nous allons tâcher de percer ce mystère en parcourant la zone portuaire et ses environs. Et nous remarquerons que, même si Burela doit son essor à la mer, sa principale richesse se trouvait enfouie dans le sol, au plus profond de la terre.
Ici, Burela Radio, vous me recevez? Vous devez reprendre la route. À tribord toute, oui, tournez à droite, longez la rambarde. À l'angle, virez à bâbord, c'est-à-dire à gauche. Faites une halte dans cette petite place qui s'ouvre devant vous. Il y a des bancs et un bâtiment avec la croix rouge sur la façade. Je répète, vous pouvez accoster dans l'un de ces bancs. Bien reçu. Attention, s'il y a des bateaux sur cette chaîne, restez à l'écoute. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, si vous voulez. Terminé.
Le bâtiment qui se trouve en face de nous est la Moncloa. Mais ce n'est ni un palais, ni la résidence d'un chef de gouvernement. Il s'agit d'un local où les marins et les armateurs retraités de la bourgade se réunissent. Il a été inauguré en 2008. Il fut ainsi baptisé après la mort d'un marin connu sous le nom de Emilio do Corneta. L'une des couronnes de fleurs envoyées portait le message « De la part de tes amis de la Moncloa ». C'est un lieu empreint d'histoire. On peut dire que le lien étroit qui unit les habitants de Burela à la mer est né ici. Avant que le port ne soit construit, il y avait ici une plage où les petits canots à moteur passaient l'hiver et où jadis on dépeçait les baleines. On y a bâti en 1926 la première roula de Burela, c'est-à-dire la première criée par la vente de poissons. Cette décision fut d'une importance majeure car, avant cela, le poisson n'était utile aux habitants que pour faire du troc ou complémenter leur alimentation. Faire un effort collectif pour construire un espace consacré à la vente de poissons marqua un tournant important. à tel point que cette construction fut détruite en 1959 et remplacée par un bâtiment répondant mieux aux besoins de ce secteur alors en essor. C'est à cette époque que fut construit le bâtiment qui se trouve devant vous. Il a fait office de criée jusqu'en 1981. Le port a continué à se développer et la criée, devenue trop petite, a été transférée au quai nouveau et dotée de hangars, d'une salle de vente et de locaux pour l'exportation. Les ventes ont tellement augmenté qu'en 1997, la gestion de la criée de Burela passe de la corporation des pêcheurs à être une concession à une société privée dans le but de mettre en œuvre des critères commerciaux à la gestion du port de pêche.
Ici, Burela Radio à nouveau. Nous allons poursuivre notre promenade. Continuez à marcher par le passage étroit situé entre la mer et le bâtiment de la Moncloa, collé à la rambarde. Vous le voyez, vous devez faire le tour du bâtiment et vous arrêter une fois arrivé à la partie arrière.
Burela Radio, Burela Radio.
Burela Radio, ici Praia da Marosa. Là où vous êtes en train de passer sous la Moncloa, débouche du ruisseau As Passarinhas. Je me souviens, enfant, qu'on prenait des eaux de baleine que des marées faisaient remonter à la surface. Certains eaux étaient très longs et nous en faisons des épées pour jouer aux pirates. À vous.
Joli souvenir, Praia da Marosa. Terminé. Une fois arrivé à l'angle, tournez à droite pour faire le tour du bâtiment. Aujourd'hui, il habite la Croix-Rouge. Vous devez vous arrêter lorsque vous arriverez de l'autre côté, lorsque vous serez en face de la route. De l'autre côté se trouve un vieux bâtiment à 3 étages. D'accord. Eh bien, faites-y une halte. Terminé.
Dans ce bâtiment se trouvait la Casa de Remedios, une épicerie qui a ouvert ses portes en 1932, peu après la construction de la première Rula, alors qu'on commençait à poser les premières pierres du port. Tout cela a contribué à augmenter la quantité de poissons dans le village, et ici, dans la Casa de Remedios, on commença à saler les chinchards, mais surtout le hareng, pour l'expédier principalement en Catalogne. Et ce fut une des premières industries, pour ainsi dire, associées à la pêche. Encore aujourd'hui, de nombreux habitants de Burela se souviennent des anciennes cuves de salage qui se trouvent près de la Casa de Remedios.
À vous, Burela Radio, ici Monte Castello, terminé.
Burela Radio, à vous Monte Castello, terminé.
Moi, je suis l'un de ceux qui se souviennent parfaitement des cuves qui se trouvent ici. On ouvrait le poisson en portefeuille, on le laissait arrêter et on le mettait en saumure pendant un certain temps. Ensuite, on le retirait de la saumure avec une espèce d'épuisette et la tête était enlevée. Puis, on le triait par taille et on le lavait dans une nouvelle saumure. On le laissait égoutter pour ensuite le placer dans les tonneaux. Imaginons que c'était des anchois. Eh bien, on les plaçait horizontalement les uns sur les autres en formant différentes couches, avec une certaine quantité de sel entre chaque couche. Ensuite, venez le pressage pendant plusieurs heures pour l'hydrater.
Bien reçu, Monte Castello. À vous, terminé. Vous devez continuer la promenade. Je vous indique la direction. Si vous êtes en face de la Casa Remedios, virez à bâbord. Effectivement, vers la gauche. Dirigez-vous jusqu'au passage piéton qui se trouve quelques mètres plus loin. Vous le voyez. Allez-y, est inversé. Une fois de l'autre côté, virez à tribord. À droite, effectivement. Et continuez sur ce trottoir qui monte. Allez-y doucement.
Comme vous pouvez le voir, ce si petit espace regorge d'histoire. La salaison effectuée dans la Casa de Remedios était un processus, disons, un peu primitif. Mais avec la construction du port, des conserveries ont commencé à s'implanter là. La première fut l'asturienne Bravo. On y transformait principalement des filets d'anchois en semi-conserve, le chinchard à l'escabèche et la bonite, aussi bien à l'escabèche qu'en conserve. Jusqu'en 1950, il y avait à Burela plus d'une douzaine de petites fabriques de conserve, mais deux seulement ont été à même de maintenir leur activité en continu, Trocha et Bravo. Pour que ces industries ne disparaissent pas, en 1955, la Corporation des pêcheurs a fait l'acquisition de la fabrique Bravo et effectuer les rénovations nécessaires à la location des installations à différentes entreprises du secteur. La dernière fut la conserverie Remo, qui occupa les lieux de 1974 à 1996. À l'époque, le local avait déjà besoin d'importants travaux et, comme ils n'ont pas pu être exécutés, elle a fermé ses portes.
Ici Boulet la radio. Vous vous dirigez vers l'ancien quartier du port, le peu qu'il en reste en tout cas, et vous devez avoir atteint à peu près le bodégon. C'est une petite baraque, à gauche, dont les murs sont recouverts de coquillages. C'était une chigre de marin-pêcheur. Chigre, c'est comme ça qu'on appelle les ici-les-bas. On pouvait y manger du bon poulpe et boire des tasses de vin. Mais bon sang, je m'égare. Lorsque vous arriverez au premier croisement, prenez à gauche, à bâbord, et empruntez la rue pavée. Bien reçu. Super. Et ensuite, lorsque vous arriverez au bout de cette autre rue, tournez encore une fois à gauche jusqu'à une petite place qui a un mirador et un caboto. Vous allez faire une autre pause.
Écoutez, Burela Radio, et tant que vous y êtes, quel autre chigre y avait-il à Burela? Mais du bon vieux temps.
Alors, il y en a plein que je n'ai pas connus. Je ne suis pas si vieux, mais mon père et à d'autres pêcheurs m'en ont parlé. Donc, je peux vous en citer quelques-uns. Celui de Carmen Marinho, celui de Tomás Bispo, celui de Modesto Vázquez, Casa de Remedios, mais il y en avait beaucoup d'autres qui ne me reviennent pas en tête.
Très bien. On va en rester là car c'est une autre histoire. Et vous êtes sûrement déjà arrivé à l'ancien quartier du port. Nous allons faire une petite halte ici. C'est ce qui reste de l'ancien quartier des pêcheurs, quelques petites maisons, certaines en ruines et le caboso qui appartient à cette maison, au fond, avec le balcon typique. C'est quand même curieux que l'élément le plus important d'un quartier de pêcheurs soit un grenier où on faisait sécher les récoltes. Mais c'est un indice qui nous aide à percer le mystère de Burela. Comme le dit Herminia, une amie chère qui connaît bien l'histoire de la bourgade, d'abord il y a eu la terre, et ensuite, la mère. Cette dernière demanda à la première les moyens pour pouvoir prospérer, et la terre les lui a donnés. Ainsi, Burela a pu croître. La mère a contribué à l'essor de Burela, mais la base de son économie, il faut la chercher dans la terre. Car, alors que le 20e siècle était déjà bien entamé, les champs de maïs arrivaient jusqu'au rivage. Approchez-vous de la balustrade du mirador, et regardez vers le bas. La mer baignait presque les pieds du caboso et là-devant, près de la mer, on semait le maïs et on faisait le battage. Et toutes ces cultures étaient amendées avec les algues du littoral. On les ramassait sur les plages et on les transportait dans des paniers ou des chariots vers les olgueiros, qui étaient des terrains publics situés au bord de la mer, où plusieurs maisons déposaient et amoncelaient leurs algues pour les faire fermenter jusqu'à la période d'amendement. Peut-être en raison de ce mélange si étroit entre la culture des champs et la pêche, appelait-on les marins de Burela les pataqueiros, c'est-à-dire ceux qui cultivent des pommes de terre.
Désolé de vous interrompre, mais il faut reprendre la route. Maintenant, vous devez revenir sur vos pas. Empruntez le même chemin qu'à l'aller. Prenez la première rue à droite, et continuez jusqu'à l'angle avec la rue qui descend au port. Là-bas, on fera une halte. Allez, en avant toutes! Et pendant ce temps, je vais voir s'il y a un bateau à l'écoute. Ça m'étonne qu'il n'y ait aucun commentaire sur les pataqueiros. Qu'est-ce que vous en dites? C'est comme ça qu'on les surnomme, pas vrai?
Les marins et les autres. On pêchait en été, en hiver, on pêchait des girelles, on les salait et on les étendait avec avosos pour les sécher et puis les manger.
L'origine du surnom pataqueiros viendrait d'une dispute en mer avec des Asturiens. Les pêcheurs de Burela avaient des pommes de terre à bord et les ont jetées sur les autres. Je ne sais pas si c'est vrai.
Merci, chers collègues. Et vous, vous êtes sûrement arrivés au croisement avec la rue Eijo Garay. Si c'est le cas, arrêtez-vous un moment. Terminé.
D'ici, vous devez regarder en haut de la rue. Un peu plus loin, sur ce même trottoir, vous verrez un grand bâtiment marron. C'est le centre de santé. Derrière se trouve la place de la mairie. Avant, il y avait une vaste plaine que l'on appelait Campo do Porto. Il y avait aussi un entrepôt de sel, une cuve de tannage et plusieurs entrepôts pour stocker les filets et d'autres objets utilisés dans les bateaux. C'était les bodegas de Nicolas, les caves de Nicolas. Il y avait aussi la boulangerie d'Abad Gomez. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, en 1934, a ouvert ses portes la scierie de Nicolas Dominguez. Parce que la construction du port a contribué au développement d'autres activités en plus de la salaison et de la conserve. L'industrie du bois, par exemple. Avec l'activité de cette scierie commence l'embarquement de poutres vers les Asturies, transportées dans des bateaux tels que la Delas, le Sofia López ou le Recalde. Les troncs arrivés au port, placés dans le Chevrolet de Nicolas, la Dodge de Silvestre Rua, ou dans les camions du menuisier Damian Lopez. L'exploitation de la terre ne donnait donc pas seulement à ce moment-là de quoi se nourrir lorsqu'on ne pouvait pas aller à la pêche, mais favorisait le commerce et offrait un nouvel élan au port en plus de l'activité de la pêche.
Bien reçu, vous devez traverser le passage piéton qui se trouve devant vous et ensuite virer à tribord, à droite pour continuer à descendre la route de ce côté jusqu'au début de la rue Cucurni.
Antonio, il faut continuer. Indique-nous le cap. Allons-y. Nous sommes rue Eixo Garay. Elle descend jusqu'au port. C'est une rue plus importante qu'il n'y paraît. Parce que le port ne servait à rien s'il n'était pas bien desservi. Et pour cela, il fallait élargir le chemin existant et le relier à la route Ribadeo-Viveiro. Mais nous n'allons pas descendre jusqu'au port. Nous allons continuer tout droit sur ce trottoir parce que nous sommes en train d'arriver à l'un des endroits clés pour répondre à la question que nous nous posions au début de cette promenade et percer le mystère de Burela. Si vous regardez devant vous, légèrement à droite, on voit les ruines de ce qui fut autrefois une usine. Ici, à Burela, on l'appelle la Fabrica Vella parce qu'elle est vraiment ancienne. Un reste archéologique qui nous parle d'un passé industriel très lié à l'exploitation de la richesse qu'il y avait dans le sol. Nous allons faire une petite halte. Cherchez un endroit d'où vous pourriez voir bien les bâtiments industriels encore debout. C'est d'accord? À l'origine, il y avait 4 bâtiments et une cheminée de 37 mètres de haut. Pendant longtemps, et sans le vouloir, cette cheminée est devenue un point de référence pour les bateaux, qui s'en servaient pour s'orienter à leur entrée au port jusqu'à la construction du phare de Penaburela. C'est devenu le symbole de la bourgade jusqu'à ce qu'on décidât de la démolir en 1962. Elle a disparu de notre vue, mais pas de la cartographie qui décrit notre paysage, car nous savons grâce aux marins d'Amoncloa que la cheminée figure encore dans les livres de navigation qu'il faut obligatoirement avoir dans les bateaux. Mais pourquoi cette usine a-t-elle été bâtie à Burela? Je suppose que vous connaissez la céramique de Sargadelos. Elle n'est pas loin d'ici, dans la municipalité de Cervo. Là-bas, à la fin du 18e siècle, a été implantée la première industrie sidérurgique de Galice et l'une des premières d'Espagne. Quelques années plus tard, au début du 19e siècle, son activité s'est élargie à la céramique et elle est restée en fonction jusqu'en 1875. Eh bien, en 1901, une société est constituée dans le but de réactiver l'industrie céramique de Sargadelos. Mais par recommandation du directeur technique Ciriaco Guisasola, la fabrique finit par s'installer à Burela. Et vous avez devant les yeux le motif. Le sol sur lequel se trouve cette zone est riche en matières premières d'une excellente qualité, comme l'argile réfractaire, le kaolin, ou le feldspath. Et maintenant, vous pouvez continuer. Antonio, tout droit, pas vrai?
Tout à fait. Vous devez continuer tout droit, jusqu'au premier croisement. Terminé!
Donc, continuez à marcher. Au début, on fabriquait ici surtout des briques que l'on expédiait aux industries de Bilbao, Gijón et Santander. En 1908, la famille Cucurni, originaire de Montmeló, en Catalogne, devient la propriétaire de l'usine qui passe à porter son nom. Le premier directeur de l'usine fut Ramón Alsina, qui sera suivi de Ramón Faré. Avec lui, on passe de la brique réfractaire à la mosaïque en grès, en utilisant le koalin de Burela pour le bleu et le blanc et les argiles de noix et fasol pour les autres couleurs. les produits de la fabrique étaient transportés par deux voiliers de leur propriété, le Tibidabo, qui a été finalement vendu à Barcelone, et le Cabaleiro. Il y a des témoignages de l'existence d'un troisième bateau, le Mazagan, qui a coulé dans le détroit de Gibraltar. Au retour, il venait rempli de charbon pour le fonctionnement de l'usine. Au fil des années, l'entreprise va connaître des propriétaires successifs et porter différentes dénominations. En 1972, elle dépose la marque Grey Burela, un grès très résistant et au comportement excellent envers les agents chimiques. Il révolutionne le monde de la céramique et marque le début de ce qui sera la dernière étape de l'entreprise, qui a fermé définitivement ses portes en 2013. Et maintenant, revenons à l'univers de la mer, ou plutôt à celui de l'industrie auxiliaire générée par l'activité du port. Parce que ce bâtiment doté de deux grandes portes que l'on voit à gauche abritait la fabrique de glace de Valentín González Loche. Arrêtez-vous un instant pour la repérer. C'est bon? La plupart des bateaux de Burela s'approvisionnaient ici en glace pendant les années 60. Maintenant, continuez à marcher.
Voyons voir, il y a quelqu'un à l'écoute? Qui se souvient de l'usine de glace?
Les marins pêcheurs comme moi, on y allait et on mettait des blocs dans la broyeuse qui broyait tout. Et on plaçait le camion ou le chariot en dessous.
Et des morceaux très gros sortaient de là. Pour le poisson, ce n'était pas la meilleure glace. Car c'était des morceaux trop grands, pas comme les glaces en écaille. On ne trouvait pas de glace partout à l'époque. Il fallait à Ferrol ou à Coruña. Il n'y en avait ni à Foz, ni à Rebadet.
Bien reçu. Maintenant, au croisement, prenez à droite et traversez le passage piéton. Arrêtez-vous de l'autre côté. Bien reçu. D'ailleurs, ma petite, vous êtes toujours là?
Oui, Antonio. Qu'est-ce qu'il y a? À vous?
Vous savez que dans ce croisement se trouvent les bâtiments industriels d'Atrocha?
Je crois savoir à quel bâtiment vous faites référence. Si vous regardez en diagonale, vous allez voir des bâtiments industriels qui sont de l'autre côté du croisement.
C'était là-bas, où l'on voit tous ces bâtiments, environ 5 ou 6 bâtiments, qui composaient Atrocha. Là-bas, vivait la famille du Trochero, au milieu, où se trouve le figuier.
Atrocha, c'était une autre conserverie importante à Burela. Ces bâtiments industriels ont été construits au début des années 1940.
On continue?
On y va quand vous voulez, Antonio.
Maintenant, vous devez simplement continuer à descendre cette rue qui mène vers la mer.
Puisque nous passons par ici, d'où vous pouvez déjà voir la mer, là-bas au loin, cette mer plus haute que l'horizon, comme le disait Carlos Orosa, je vais en profiter pour vous raconter une autre histoire qui remonte à plusieurs siècles. Je suppose que vous connaissez déjà le rôle si important joué par la chasse à la baleine dans tout le littoral de Amarinha, surtout entre le 16e et le 18e siècle, avant qu'elle ait fini par disparaître à cause de la pêche incontrôlée. Et je le fais juste ici parce qu'on peut imaginer que c'est dans cette zone proche de la mer, mais considérablement plus haute, que les premiers baleiniers basques à arriver à Burela ont dû élever leur tour de guet pour repérer les baleines qui passaient près de la côte. À l'époque, la pêche à la baleine supposait une importante source de richesse, puisque rien ne se perdait. La chair servait d'aliment, la graisse pour les lampes à l'huile et le savon, les os pour confectionner des vêtements, des chapeaux ou des brosses. La disparition de la baleine a entraîné l'appauvrissement des marins pêcheurs de Burela. La mer continuait d'être la source d'alimentation, mais a cessé d'être une source de richesse. À partir de là, pour subsister, les habitants ont commencé à alterner la pêche en été et l'agriculture le reste de l'année.
D'ailleurs, cet espace a été gagné à la mer. Avant, elle arrivait devant ces bâtiments devant lesquels nous sommes passés, là-bas, à droite. Avant, il y avait là d'autres cabanes plus anciennes. Une indication. Une fois arrivé au croisement suivant, virez à tribord. Vous savez, à droite. Très bien. Et maintenant, continuez sur ce trottoir. Un peu plus loin, vous allez apercevoir un passage piéton. Vous le voyez? Eh bien, lorsque vous y arriverez, tournez à nouveau, cette fois à bâbord, et traversez la route. De l'autre côté, il y a un petit mirador sur la plage. Allez-y, nous y ferons une petite halte. Bien reçu, terminé.
Penchez-vous pour voir la plage et la mer agitée. Laissez le vent vous balayer le visage. C'est la plage du Peñarol. Et là-bas, en face, au loin, vous verrez la balise de Peñaburela, un petit phare peint en jaune et noir. On dit que les pêcheurs de pêche côtière l'appelaient simplement « A Pedra », la pierre. Pas vrai, Antonio?
C'est vrai. La Pedra, avec majuscule que nous avons ici, c'est ce rocher du phare. Parce que c'est là que les vagues déferlent avec une violence toute particulière pendant l'hiver.
Boulez la radio, ici Praia da Marosa. Je suis en train de virer de bord pour entrer au port. Je peux vous dire une chose. Avant l'installation de la balise, lorsque les marins entraient à Boulez en provenance de l'ouest, comme je suis en train de faire, ils ne pouvaient pas perdre de vue le phare de Santibrao pour éviter de heurter la Pedra.
Il faut préciser que le phare de Burela n'est pas vraiment un phare, mais une espèce de point cardinal qui fonctionne comme une balise lumineuse pour indiquer aux bateaux qu'ils doivent passer à l'est du rocher.
Comme le disait mon père, lorsqu'il pleut du sud, c'est-à-dire de Cabo Burela, il pleut à San Ciprián et pas à Burela. Et s'il vente, Vento do Cabo a noite quedado. Le vent du Cap, la nuit se calme.
Les travaux visant à construire la balise lumineuse sur le rocher Burela ont commencé en été 1959. La violence de la mer a beaucoup compliqué les choses, comme si elle revendiquait sa souveraineté sur ce paysage encore vierge. L'entreprise de construction qui était de Villaronte, Foz, a mis 6 mois pour les exécuter, car les ouvriers ne pouvaient travailler que lorsque la mer était calme. Pour soulever le matériel, on utilisait un remorqueur, une gabarre et une baume. Le remorqueur était de seconde main et il était déjà hors service. Mais le moteur à essence était encore en bon état. On disait qu'il avait appartenu à un avion abattu pendant la Seconde Guerre mondiale à Taramundi.
Et là, où vous vous trouvez, dans ce mirador sur la plage de Peñaural, il y avait une cabane de tannage. On peut encore voir la base de la construction.
C'était une petite construction qui comptait une chaudière et 2 cuves qui étaient utilisées pour teindre les filets. À Burela, à un moment donné, il y a eu 5 cuves de tannage dans tout le village. Vous vous rappelez le processus de tannage, Antonio?
Ça me dit quelque chose. La première étape consistait à écraser les écorces de pin et de saule avec un maillet en bois. Ensuite, on remplissait les cuves d'eau et lorsqu'elle était en ébullition, on y faisait cuire les écorces.
Comment ne pas m'en souvenir? Tout le processus de tannage était fait par l'équipage des bateaux eux-mêmes et ils se réunissaient parfois. Je me souviens très bien que dans le cas des seines et des chaluts, on ajoutait un produit appelé catacoum. C'était une sorte de goudron.
Et c'est tout ce mélange qui teignait les engins. À la fin du processus, il fallait faire sécher les filets dans un champ suffisamment grand. Et tout comme on teintait les filets, on faisait la même chose avec les vêtements ou les voiles fabriquées en toile blanche. Bon, il faudrait peut-être y aller.
On continue. Par où allons-nous?
Il faut retraverser par le même passage piéton.
On y va alors. Comme le disait Antonio, jusqu'aux années 60 du siècle dernier, le pantalon de travail était fabriqué en toile blanche et comme les filets, on les tannait aussi dans les cuves avec les engins de pêche. D'ailleurs, après le passage piéton, tournez à gauche en direction du port. D'accord? Les vêtements de pêche étaient aussi en toile. Ils étaient composés d'un pantalon et d'une veste. Pour les imperméabiliser, il fallait les imprégner d'huile de lin qui était extraite des graines de lin et qui leur donnait en plus une couleur jaune. Tous ces vêtements, après avoir été attaqués par le salpêtre, tenaient debout. Là-devant, il y a un autre passage piéton. Vous devez le traverser et après, continuer tout droit en longeant ces bâtiments industriels, toujours en direction du port. Si vous regardez à gauche, vous verrez que le mur de la digue est recouvert de peintures murales. C'est un musée à ciel ouvert. Chaque année, de nouvelles fresques sont ajoutées. Elles ont tout un thème lié à la mer et recréent une certaine mythologie de Burela. Le phare, les poissons, les baleines, les naufrages, les gens de la mer. Mais elles oublient cette autre face cachée du mystère de Burela. Les argiles, le koalin, le feldspat. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons faire une petite halte. Sur la quatrième peinture murale, il y a un petit garçon et une petite fille dans un canot. Vous les voyez? Oui? Moi, je m'identifie à cette petite fille, vous savez? Mon père est arrivé du Cap-Vert à la fin des années 70 pour travailler dans la construction de l'usine Alumina. Et ensuite, il a été enrôlé dans un bateau de pêche et il a décidé d'être marin-pêcheur et à rester vivre à Burela. Moi, je suis née ici. J'ai 40 ans et je me sens galicienne. Continuez à marcher. D'ailleurs, mon nom est Antonia. Mais tout le monde m'appelle Nila, car au Cap-Vert, il est d'usage de donner des petits noms qui identifient les personnes, comme on le fait ici avec les surnoms familiaux. Je me sens tellement appartenir à ce village que je suis ravie d'être votre guide. Regardez tous ces bâtiments industriels qui sont à votre droite. Ce sont des ateliers de mécanique navale. Certains d'entre eux ont plus de 60 ans d'activité derrière eux. Les premiers ateliers ont été ceux de Vicente de Carinho et de Meitin de Viveiro. À l'époque, ils ne se trouvaient pas ici parce que, jusqu'à la fin des années 50, la mer arrivait encore jusqu'ici. En 1945, le réseau des ateliers mécaniques s'élargit avec un autre implanté par trois associés locaux, Roca, Cavada et Vicioso, qui au début étaient derrière la Fabrica Vella. Plus tard, ils se sont séparés et en 1957, ils ont transféré ici leurs ateliers qui, comme vous le voyez, sont encore en activité. Continuez à marcher jusqu'au passage piéton qui se situe juste en face de la Moncloa, d'où nous sommes partis. Ce passage piéton connecte avec le port. Nous allons achever cette promenade en marchant sur le quai, parce que ce quai, d'une certaine façon, constitue l'épine dorsale sur laquelle s'est bâtie l'histoire de Burela ces 100 dernières années. Il n'y a rien en lui qui en fasse un symbole, mais sa présence discrète cache un énorme potentiel pour relier cet endroit au reste du monde.
Êtes-vous arrivé au passage piéton? Très bien. Alors traversez et dirigez-vous vers le quai qui se trouve en face de vous. Nous allons entrer dans les eaux juridictionnelles du port de Burela. Mais avant de continuer, nous allons faire une pause. Cherchez une amarre avant que ne s'achève la rambarde qu'il y a à droite.
Rien de ce qui s'est passé à Burela n'aurait été possible sans ce quai. Comme je vous l'ai dit au début, ici, il n'y avait qu'une plage et quelques rochers. La mer et le vent frappaient avec force. En 1923 a été créée la Corporation des pêcheurs de Burela, la première association des gens de la mer, dans un local cédé par le maître Don Camilo. Deux années plus tard, le 26 avril 1925, plusieurs marins-pêcheurs et Don Camilo lui-même rédigent une lettre adressée au gouvernement demandant la construction du port.
Eh bien, je crois que c'est bon. Il ne manque plus que le nom du destinataire. Monsieur le responsable du bureau du ministère espagnol du développement Madrid. Et quels sont les expéditeurs? Ce sera vous deux. Domingo González y González et Antonio López Ron, président et secrétaire de la Corporation des pêcheurs de Burela. Eh bien, voici comment elle commence. Avec le plus grand respect et la plus grande de considération est exposé ce qui suit. Dans ce village, il y a plusieurs bateaux de pêche dont l'industrie est la seule source de revenus pour plus de 200 familles. Et il est très déplorable qu'il nous manque un port pour mettre à l'abri nos embarcations. Pendant l'été, nous pouvons à peine les abriter. Mais au cours des mois suivants, nous en sommes réduits à devoir abriter nos bateaux dans les ports les plus proches, San Cibrao, qui se trouve à une distance de 11 km. On nous ignore et ces conditions nous causent d'incalculables préjudices, puisque notre travail est restreint à environ 3 mois en été, le reste du temps...
6 ans après, au mois de juin 1931, commençaient les travaux du port qui se sont échelonnés sur plusieurs années. Par la suite, le port sera agrandi jusqu'à atteindre son aspect actuel. Maintenant, nous allons explorer le premier tronçon construit dans les années 30. Allez, nous allons continuer à marcher sur ce quai avec précaution. Avant, c'était bien plus étroit. Cela n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui devant les yeux. Le mur d'abri a été construit bien plus tard.
Ici, à droite où se trouve ce dépôt, était situé le treuil du port.
Il y avait notre treuil, qui était en bois et peint en noir avec du bitume. C'était là où ils gardaient les toiles pour couvrir le kaolin. Parce que cette usine, le kaolin, c'était du kaolin des Allemands. Au début, le propriétaire était Faré et un autre dont je ne me rappelle pas le nom maintenant. Ils l'ont vendu à une entreprise allemande qui disposait ici de 2 ingénieurs, Foster et Kaspar. Oui.
Ces Allemands ont laissé une profonde empreinte dans le village. Tout le monde se souvient par exemple des fêtes célébrées chaque année. Et l'une des plages porte encore le nom de plage des Allemands. Mais ce que nombre de femmes de Burela ne pourront vraiment pas oublier, ce sont les dures journées de labeur qu'elles ont passées à charger le kaolin des Allemands sur ce quai, en formant une chaîne humaine jusqu'au cargo. Les femmes ont aussi été la principale main-d'œuvre des fabriques de conserve. Et ce sont elles qui se sont toujours chargées de coudre et de réparer les filets. Maria Jesús est l'une des plus vieilles ramandeuses de Burela. Je ne sais pas si elle est à l'écoute. Bonjour! On ne parle presque jamais des femmes quand on aborde les métiers de la mer.
Les femmes, nous sommes un facteur important dans la pêche. S'il n'y a pas de filet, il y aura difficilement du poisson.
Effectivement, Maria Jesús. Et quand avez-vous commencé à coudre? Parce que vous vous êtes consacrée toute votre vie à la mer.
J'ai commencé à remander les filets à 14 ans, lorsque je me suis mariée. J'ai été au déchargement des quais, j'ai ramassé des algues, j'ai accompagné mon père à la pêche. Si j'étais un homme, j'aurais été marin-pêcheur.
Merci, Maria Jesús. Burela a toujours été liée à la pêche à la bonite, une histoire qui a commencé dans les années 1920, lorsque les marins-pêcheurs basques sont arrivés avec leurs canots, ou maracanas, et apprennent aux pêcheurs locaux à utiliser l'engin de pêche pour capturer la bonite. Nous sommes en train d'arriver au bateau musée qui est un ancien bonitier, le Reina del Carmen. Nous allons nous en rapprocher. C'est ce bateau qui est amarré, là, à droite. Il y a une petite vitrine devant avec les horaires de visite. La première saison de pêche à la bonite à Burela a été en 1924. Au fil des décennies suivantes, c'est devenu l'une des principales pêches de la flottille du village. Il a même fallu avancer les fêtes du Carmen au mois de juin, car la saison de la bonite durait tout l'été. Le moment de plus grand apogée de la pêche à la bonite fut dans les années 80.
La meilleure période, je crois que ça a été celle de la bonite et de la pêche à la ligne en même temps, à l'époque du Doriella.
L'affaire du Gabriela a eu lieu en 1994 et ça a été le moment culminant de la dénommée « guerre de la bonite » entre la flottille cantabrique espagnole et la flottille française. Une guerre dans laquelle Burela joua un rôle important car c'est dans ses ports qu'on ramena le Gabriel, un bateau français intercepté par ses bonitiers espagnols lorsqu'il pêchait avec des engins illégaux. Un moment qui est resté gravé dans la mémoire des habitants.
La guerre de la bonite, ça a été quelque chose. Ça donnait la chair de poule, voir le port bondé de gens, de manifestations. Rien que d'en parler maintenant, j'en ai les larmes aux yeux.
Si je ne me trompe pas, certains d'entre vous y ont été mêlés et en première ligne.
Moi, je peux raconter ce qui s'est passé. La guerre de la bonite, en fait, a éclaté parce qu'ils utilisaient des filets illégaux. Et en plus, ils capturaient plus que ceux qui étaient autorisés. Et ça nous portait préjudice
parce que les filets s'accrochaient les uns aux autres. Alors, on a commencé à couper leurs engins de pêche. À un moment donné, des bouteilles de gasoil ont été enveloppées dans des chiffons et jetées dans des bateaux plus petits qui se sont avérés être basques. Et ça a été le déclencheur. Alors, quand tout ça est arrivé, on est allé chercher ce bateau, parce que c'est lui qui a jeté ça au canot, et lorsqu'on était derrière lui, parce qu'il essayait de s'échapper avec un bateau de guerre qui le soutenait, il essayait d'échapper et on l'a poursuivi. Je suis monté sur le pont et j'ai entendu des jurons et il disait « Charge le Paco ». Paco était celui qui était dans Darwa. « Charge le Paco, putain, attaque !» Et ils ont vu autant de bateaux autour qu'ils ont quitté le bateau et sauté dans le bateau de guerre. Ils avaient coupé les tuyaux du bitume. Donc, si on était descendu avec un briquet, ça aurait explosé. Encore heureux que ceux qui sont descendus n'ont pas allumé des briquets. Ensuite, on l'a ramené ici, et vers Estacalevares. Mais le bateau de guerre était à Ferrol, car le ministre de la Pêche était là, à Burela, et ne voulait pas qu'on rentre. On a été environ une heure arrêté et après des délibérations, il a été décidé où on meurt tous ou le bateau rentre. Et ça s'est passé comme ça. Le quai était plein de gens. Le Mirola était envahi par la foule.
Ensuite, on a mesuré l'engin de pêche avec le notaire, car ces filets maillants avaient des dimensions réglementaires dans la loi française. Ils étaient en surface et entravaient la navigation. On les a mesurés avec le notaire et depuis, on a interdit les filets maillants français.
Après la guerre de la Bonite, l'histoire n'a pas vraiment changé parce que les bateaux français et irlandais, même si les filets maillants avaient été interdits, ont continué à utiliser des chaluts. Pendant ce temps, le port de Burela s'est transformé. Beaucoup de bonitiers ont quitté la côte. Tant d'autres ont été dépecés avec les aides de l'Union européenne. La relève générationnelle des équipages et patrons s'est avérée compliquée. Maintenant, il y a peu de bateaux immatriculés à Burela. On continue de vendre beaucoup de bonites et plus encore de merlus à la ligne parce qu'ils sont pêchés par de nombreux bateaux venus d'ailleurs, de toute la mer Cantabrique et de France et d'Angleterre. Parce que ce port donne un bon service et l'activité qu'il génère n'est pas seulement la vente de poissons, il y a des acheteurs, des camions pour le transport, les caisses, etc. Nous terminons ici cette promenade, même s'il vous reste encore des forces et vous souhaitez continuer à marcher sur le quai. Il vous reste un bon petit chemin. Vous pouvez continuer et voir la nouvelle usine de glace et les installations actuelles de la Corporation des pêcheurs, où vous pourrez découvrir une exposition sur leurs archives historiques. Et si vous n'avez plus le cœur à marcher, nous vous invitons à visiter ce bateau-musée bonitier. Merci de nous avoir accompagnés.
Les personnages de cet audioguide ont été interprétés par ordre d'intervention par Xavier Ron, Véronique Voyer, Olivier Cano, Michael Bonneau et Cécile Amela. Nous avons également écouté les voix des marins-pêcheurs Santiago Lestegas, le second du Fraga, Antonio Abad, le Gacha, Abelardo Basanta, le Lora, et de la romandeuse Maria Jesús Alonso. L'enregistrement fut réalisé par Thomas Acheitos. L'édition et la post-production du son ont été à la charge de Jacobe Martínez Antelo et la documentation, le scénario et la direction sont signés chez Sus Ron. Ce travail n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration d'Ana Moreiras, Antonio Valle, Ocachoto, Iria Pita et surtout Herminia Pernas.